RFI, grand reportage, Thomas Arms.
À l'horizon de la 21e conférence internationale sur le climat, qui se tiendra à Paris en 2015, RFI s'intéresse aux projets innovants de production d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes à Bégane, en Bretagne, pour l'inauguration du premier parc éolien citoyen. Et dans un pays centralisé comme la France, où la production d'électricité est à plus de 70% nucléaire, eh bien la reprise en main par des citoyens d'une production à partir d'énergie renouvelable mérite d'être remarquée. Le 14 juin dernier, Agnès Rougier était à l'inauguration du parc au pied des éoliennes, nos yeux et nos oreilles. On écoute son grand reportage citoyen, citoyenne à vos éoliennes et on la retrouve tout de suite après.
Merci à tous les acteurs de ce parc éolien qui n'ont pas ménagé leurs efforts, qui ont su être tenaces et qui aujourd'hui peuvent être fiers de cette belle réalisation.
Et trois beaux canards s'y vont baignant et le long de la route.
Ça y est, après 10 ans de bataille pour convaincre et chercher des solutions, le premier parc éolien citoyen de France était inauguré samedi 14 juin à Bégane, un village au sud de la Bretagne. Dans la région, on pratique la promenade chantante. Alors après une grande assemblée générale au milieu des champs, le millier de participants est allé voir les 4 éoliennes toutes neuves sur l'air de chansons populaires bretonnes.
Le long de la route,
le fil de bois s'en va chassant, le long de la route.
Mais revenons un peu en arrière. En France, plus de 70% de l'électricité est fournie par les centrales nucléaires, propriété d'EDF. Électricité de France, le plus gros producteur et fournisseur d'électricité sur le territoire. En 2013, seulement 3,7% de l'électricité française était produite par des éoliennes, exploitées majoritairement par des multinationales. Il fallait donc être un peu visionnaire ou inconscient pour se lancer dans un projet pareil au titre de simple citoyen. Le premier qui a lancé l'idée s'appelle Michel Leclerc.
Je suis ancien professeur d'art plastique, sculpteur, donc j'ai rien à voir avec le domaine éolien. Mais effectivement, je suis à l'origine de l'idée avec un autre copain, discussion de comptoir, se dire, tiens, c'est compliqué d'installer une éolienne personnelle, quitte à faire un peu de boulot, on va essayer de faire du collectif comme ce qui se passe au Danemark. Ça risque d'être un petit peu plus long, mais au moins on en fera profiter des centaines de personnes.
Quand est-ce que ça a commencé ce projet ?
Donc l'idée de départ, c'était juin 2002. Et dès septembre 2002, cette idée qui aurait pu faire un gros flop, c'est-à-dire que personne n'aurait pu reprendre cette idée, puis ça aurait duré le temps d'une conversation de comptoir, sauf que ça intéressait tous les copains, les collègues, le réseau. Et très vite, on s'est retrouvé une vingtaine à travailler cette idée et puis vraiment à la faire vivre et à la faire durer dans le temps, puisque de 2002... à 2014, ça fait pas mal de temps pour inaugurer le premier.
Peut-être vous pourriez essayer de nous décrire justement qu'est-ce que c'est que ces éoliennes, à quoi elles ressemblent.
C'est des éoliennes qui font 98 mètres de mât, 92 mètres de diamètre, c'est-à-dire qu'elles culminent à 146 mètres de haut. Et chaque éolienne fournit de l'énergie pour 2000 foyers. Notre parc va alimenter en électricité 18 000 personnes.
18 000 foyers hors chauffage, précisons-le. Mais pourquoi choisir la production éolienne alors que l'on dit souvent qu'elle est intermittente, donc peu fiable ? Michel Leclerc.
Alors c'est effectivement une production qui n'est pas régulière. Elle est fluctuante plus qu'intermittente, c'est-à-dire que nos éoliennes vont produire 95% du temps de l'année. C'est déjà pas mal. Mais elles ne vont produire que très rarement à plein régime. On compte à peu près 10% du temps de l'année où elles produiront à plein régime. Le reste, ça va s'étaler, elles seront à peu près à 40-50% à mi-régime. C'est-à-dire qu'il y aura 4 mégawattheures produits en moyenne journellement pour le parc. Et cette production décentralisée est très appréciée par le gestionnaire du réseau, ERDF, parce que c'est une production qui soutient le réseau, notamment dans les périodes de pointe, en hiver. Alors que les centrales nucléaires ont une production qui est fixe, avec de temps en temps des interruptions brutales. En quelques secondes, 1000 mégawatts peuvent être retirés du réseau. L'an dernier, en quelques instants, 6000 mégawatts ont été arrêtés. Et là, ça pose d'énormes problèmes pour le gestionnaire de réseau qui ne peut pas prévoir ces coupures. Tandis que le vent, on sait prévoir à quelques jours d'intervalle la production à quelques pourcentages près de ce qu'il va y avoir par les éoliennes. Donc ce sont des productions intermittentes mais prévisibles. Donc on peut les gérer.
Afin de mieux suivre le parc, une petite partie de l'équipe est allée en formation, formation à haute tension, formation aux travaux et aux secours en hauteur. On a pris quelques petits bleus, mais on a appris surtout beaucoup de choses.
On pourrait penser que l'implantation d'éoliennes industrielles relève forcément d'entreprises industrielles. Eh bien, le parc éolien de Bégane prouve le contraire. Pour Alain Ridard, membre fondateur et président de l'association initiatrice du projet Éolienne en Pays de Vilaine, la force qui a permis cette réalisation, c'est le collectif.
Voilà, alors ça c'est l'essence même du projet, puisque dès le départ, on a dit il faut que ce soit un parc qui soit géré par, pour et avec les habitants du territoire. Donc l'objet depuis le départ, c'est de faire en sorte que les gens qui habitent ici s'approprient ce projet, le portent et soient aussi des ambassadeurs par rapport à cette possibilité de construire ce type de projet géré par des gens qui sont finalement des personnes lambda qui s'engagent et qui mettent de leur bonne volonté pour que ce projet puisse se faire. Beaucoup n'y croyaient pas parce que c'est un projet de type industriel et un projet industriel porté au départ par une association, ça paraissait vraiment utopique, mais en fait, on est en train de prouver que c'est possible, avec de la bonne volonté, avec aussi beaucoup de compétences qui sont apparues et qui nous ont accompagnés de bénévoles à chaque fois qu'on a eu besoin. On a trouvé les ressources sur le territoire, autour de nous, pour nous accompagner, pour pouvoir progresser toujours dans ce projet.
Allez, je pense qu'on peut tous lever les bras en l'air une fois pour la photo, tous en l'air.
Il fallait donc apprendre en marchant dans tous les domaines, du point de vue technique, mais aussi de l'organisation et de la finance. L'association éolienne en Pays de Vilaine ne pouvait pas légalement porter un projet industriel. Il a donc fallu créer des sociétés. Alain Ridard.
En fait, il y a 3 sociétés différentes. Parce que à chaque fois qu'il y avait un objet, il y avait une société qui a été créée. Le premier, c'est la SARL Citawatt, qui est une structure qui a été créée pour porter le permis de construire jusqu'à son obtention. Donc toutes les études nécessaires pour l'obtention du permis de construire. Ensuite, on a une société dite d'exploitation. Elle, c'est la société qui va acheter les éoliennes et qui va exploiter le parc. Voilà, ça c'est la SAS Bégawatt. Ce sont des sociétés, et notamment la SAS Bégawatt, que l'on a voulu comme étant des sociétés qui respectent l'esprit coopératif. Il y en a très peu où on peut faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on dissocie le droit de vote du capital investi de manière à ce que toutes les personnes aient la même possibilité d'avoir leur mot à dire sur le projet.
C'est-à-dire une personne, un vote.
Voilà, un homme, une voix. Et on dissocie le notion de « c'est parce que j'ai apporté plus que c'est moi qui décide ». Donc voilà, on a des sociétés, une troisième société qui a été créée ensuite, qui est aussi une SAS, qui s'appelle Citawatt Développement, qui est un cabinet d'études qui a été réalisé pour accompagner la réalisation des études pour ces différents projets.
Et d'ailleurs, on va activer le contrat d'achat avec EDF. Pour l'instant, on vend de l'électricité à EDF et à 1,2 centimes du kilowattheure.
Il fallait créer des façons de fonctionner financièrement aussi, Michel Leclerc ?
On n'a pas inventé de structure. Les sociétés qu'on a créées, ce sont des sociétés classiques. D'autres outils de financement que l'on a trouvés, ce sont des clubs d'investisseurs. C'est des choses qui existent et que nous connaissions depuis longtemps dans le pays de Redon. Il y avait notamment des CIGAL, clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Donc ces clubs d'investisseurs, ce sont une façon de réunir entre 5 et 20 personnes qui mettent sous forme d'indivision leur argent en commun pour investir sous forme d'une personne morale dans des sociétés.
Je suis Marie-Françoise Gonin et j'habite Nantes.
Créatrice d'une cigale de participation à ce parc éolien citoyen.
Alors, créatrice, non, pas uniquement, avec d'autres. Nous avons une longue histoire anti-nucléaire contre 2 centrales, celle du Pèlerin et celle du Carnet. Donc, nous avions à l'époque un vrai souci qui était que ce parc auquel participaient des cigales aboutisse de manière à ce que nous puissions en avoir d'autres dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, où maintenant nous en avons 3 autres, et également ailleurs en France.
Donc, en fait, c'était une espèce d'investissement sur l'avenir.
Oui, absolument, puisque dans notre bataille contre le nucléaire, nous avons toujours défendu qu'il était absurde d'être quelque part sur un cordon ombilical centralisé et qu'il nous paraissait que même en termes de stratégie nationale, enfin de stratégie même à limite militaire, c'était important que chaque région puisse être indépendante d'un point de vue énergétique comme d'un point de vue d'autre chose. Ici, ça va concerner tous les villages qui sont autour, donc voilà, c'est déjà un petit îlot qui a une certaine indépendance énergétique.
Alors, il y a un morceau de cette éolienne qui vous appartient, que vous
avez sponsorisé ? Oui, c'est la pale, le petit bout de la troisième pale, là, oui.
Quel effet ça fait de l'avoir
en chaussure ? Je suis très heureux.
Et nous aussi, on trouve les éoliennes plus belles que les autres, c'est bizarre.
C'est marrant, ça, tout le monde. On a tellement bavé pour arriver à ça que quand on les voit tourner, là, ça fait drôle.
À l'inauguration du parc, tout le monde était enthousiaste mais soulagé aussi de voir enfin le résultat de l'investissement. Car dans ce projet, tout semblait complexe. L'organisation, le choix et l'achat des machines, puis l'exploitation du parc, la vente de l'électricité et le plan de retour sur investissement. C'était aussi un montage financier compliqué qui lui-même dépendait de la signature d'un contrat avec EDF, la seule compagnie française habilitée à racheter l'électricité produite à un tarif garanti sur 15 ans.
Après, vous allez voir un chapiteau, c'est là. Hein ?
Ah, je croyais qu'il venait installer quelque chose.
Nous sommes devant l'éolienne numéro 4 avec Jean-Paul Garrigue et Patrick Duguay. Jean-Paul Garrigue est trésorier de l'association Éolienne en Pays de Vilaine, EPV, et président de la société Bégawatts qui gère le parc. Patrick Duguay habite à Bégane, il est administrateur d'EPV et membre du conseil de direction de Bégawatts.
La première étape, c'est le permis de construire. Est-ce qu'on va avoir un permis de construire ? Bon, ça a été. Après, les financements, alors ça a été une galère pas possible, puisque les banques françaises, ça les intéressait pas, ils voulaient pas se mouiller dans ce projet-là. Donc il a fallu faire appel à des banques, notamment une banque étrangère. Donc ça a demandé un certain temps. Après, il y a eu le problème du recours sur le contrat EDF, sur le prix que EDF nous assure au kilowattheure. Donc ça avait été remis en cause l'année dernière. Donc ça, normalement, ça bloquait tout. C'est-à-dire que les banques disaient, nous, tant que le contrat n'est pas validé, on ne débloque pas un sou. Donc ça, pareil, on se dit, là, ça y est, c'est foutu, le temps que ça se fasse. Et on avait une contrainte calendaire, c'est-à-dire qu'il fallait que les travaux démarrent au mois de juillet 2013. Sinon, il fallait tout recommencer, la procédure de permis de construire. Donc on a pris le risque de démarrer les travaux au mois de mai l'année dernière. Et on a eu la réponse quelques temps après. Quoi.
C'est-à-dire qu'on a démarré le chantier qu'avec des fonds propres.
Ouais.
Qu'avec l'argent des citoyens.
Les citoyens ont mis pour démarrer le chantier. Quoi. On a eu peur, hein. Enfin, sincèrement. On a eu... Heureusement qu'on est tout un groupe de personnes à suivre ce dossier-là, sinon...
Ouais, comme là, tout seul, c'était pas possible de prendre la responsabilité, de s'engager avec 1000 personnes derrière. Mais là, on a été soutenus par tout le monde.
Hein. Ah, ouais.
Tout le monde a validé le fait de commencer les travaux, malgré qu'il y avait vraiment ce risque. Hein,
Vous avez fait une assemblée générale, comment ça s'est passé
hein ? Des grandes décisions comme ça ont été prises en assemblée générale, collectivement. Quoi. Ce problème-là, le choix des machines, et puis plein d'autres décisions comme ça. Ouais.
En France, même si aucune éolienne ne peut être à moins de 500 mètres des habitations, quand un parc s'installe, les riverains sont vent debout contre le projet. Mais à Bégane, ça ne s'est pas passé comme ça. Jean-Bernard Mabilet, premier président de Bégawatts.
Moi, je comprends très bien que des gens, devant une trop grande concentration d'éoliennes, soient un peu perturbés, ça je comprends.
Est-ce que vous avez eu une opposition assez virulente à un moment ou pas ? Et comment vous avez réglé ça ?
Eh bien, on a réglé ça tout simplement, c'est qu'on a organisé des réunions publiques sur Bégane, avec une bonne participation, des gens à la fois favorables et des gens inquiets, quelques opposants. Tous ceux qui se sont manifestés à l'occasion des réunions publiques, on a proposé d'aller chez eux, faire une simulation photographique et de répondre à leurs questions. Et je pense que, on a eu un contact permanent avec les élus locaux. Et le fait qu'on proposait aux gens de devenir actionnaires, ça change aussi l'ambiance. Moi, je comprends aussi que des gens voyant un parc éolien arriver, qui est entre les mains d'investisseurs étrangers, et sachant que les dividendes de ce projet auprès de chez eux partent à l'extérieur, n'ont pas la même réaction. Ou ici, il y a un Béganais sur 10 qui est actionnaire. Donc ça change l'ambiance. Ce sont nos éoliennes, ce ne sont pas les éoliennes de GDF Suez ou de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que ça change. Moi, j'explique ça comme ça.
Depuis le démarrage, à part quelques plaintes de riverains sur le bruit qui nécessite de brider les éoliennes à certaines heures, tout se passe bien. Les quatre éoliennes produisent du courant et elles ont même fait des petits, puisqu'un projet identique a démarré en août, non loin de Bégane, sur les communes de Sévrac et Guenrouette, à l'initiative d'éoliennes en pays de Vilaine.
Votre plus beau souvenir, finalement ?
C'était moins été long que chaque étape était importante.
Oui, il ouais, y a plein de bons souvenirs, en fait, puisque comme maintenant, elles tournent, quoi. Hein ? Et pourtant, elles tournent, quoi.
Quand même, elles tournent.
Et quand même, elles tournent.
Parce qu'avec tout ce qu'on a eu, je crois qu'on peut dire ça.
Et bien sûr, en Bretagne, tout se termine par un fest-noz. Et là, c'est le duo Rosenthalek et Yannick Noguet qui a mené la danse.
Y a-t-il du vent à Bégane ?
Citoyens, citoyennes, à vos éoliennes. Un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisé par Eva Moschinski.
Agnès Rougier, bonjour.
Bonjour Thomas.
C'est carrément une aventure, hein, l'installation de ce parc éolien en Bretagne. On entend dans le reportage que les citoyens, les habitants de ces villages se sont fait confiance et ont vraiment donné de leur personne, hein, et de leur temps.
Oui, c'est clair. Il s'agit d'éoliens industriels et chaque moment du projet leur a demandé vraiment une expertise différente. Et il s'est avéré qu'au sein de l'association EPV, puis des sociétés Bégawatt, Citawatt, et il y avait toujours une personne ressource. Et heureusement, parce qu'en fait, ils ont dû monter exactement les mêmes dossiers qu'un industriel. Alors, si l'on revient brièvement sur le financement, quand on regarde les chiffres, au final, sur un budget de 12 millions d'euros, les citoyens ont apporté 2,3 millions. Et ce sont les clubs d'investisseurs qui ont investi le plus. 700 personnes ont participé pour un total d'1,4 million d'euros. Alors, sans ces gens qui sont vraiment jetés à l'eau pour des idées et en toute confiance, eh bien, rien ne serait arrivé.
Mais ces citoyens qui ont investi, est-ce qu'ils vont en tirer à terme des bénéfices, Agnès ?
Oui, bien sûr, et c'est l'un des moteurs du projet également. Bégawatt a vocation à faire des bénéfices. Et le contrat de rachat d'électricité produite par EDF, à un prix défini à l'avance, a permis d'envisager le minimum de bénéfices réalisables. Ensuite, une partie de ces bénéfices sera affectée à des actions en faveur des économies d'énergie, c'est à peu près l'équivalent d'un mi-temps salarié, et le reste sera distribué aux actionnaires. Alors les premières années sont probablement consacrées à la constitution d'une trésorerie de sécurité, mais ensuite Bégawatt a pour objectif d'atteindre rapidement, en tout cas le plus possible, un taux de plus ou moins 4% de retour sur investissement.
Mais alors pour bien comprendre, pourquoi vendre l'électricité à EDF ? Il y a une société, Enercop, qui s'est spécialisée dans la distribution d'électricité 100% renouvelable.
Oui, mais seule EDF a les moyens de garantir un prix d'achat sur 15 ans à hauteur d'environ 8 centimes par kilowatt. Parce que les consommateurs français payent sur leur facture EDF une contribution spéciale de soutien au service public d'électricité. De surcroît, sans un contrat de ce type, garanti par l'État, c'est important, les banques n'auraient jamais prêté d'argent, donc pas le choix. Mais dans 15 ans, libre à eux de quitter EDF pour Enercop.
D'accord, mais en quoi ce petit parc de 4 éoliennes s'inscrit-il dans la transition énergétique ?
Alors rappelons qu'en 2008, l'Union européenne a adopté ce qu'on appelle le paquet climat-énergie, qui engage d'ici 2020 à réduire d'au moins 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, à avoir 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, et à diminuer de 20% la consommation d'énergie. Alors certes, ce petit parc éolien citoyen ne va pas faire à lui tout seul tout le travail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit dans un mouvement plus général de décentralisation de la production électrique par les énergies renouvelables. Avec le soutien des conseils régionaux et de l'Agence gouvernementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'association éolienne en Pays de Vilaine, EPV, a créé deux réseaux régionaux, Taranis pour la Bretagne et Énergie citoyenne en Pays de Loire. Et ces réseaux aident à monter des projets, mais surtout, ils communiquent sur la réduction nécessaire de notre consommation d'électricité. Et dans un pays centralisé comme la France, le fait qu'ils partent de la base, des citoyens, les rend en fait très efficaces.
Agnès Rougier, merci pour ce grand reportage et ces explications. Portez-vous bien. Mihei, oh ja, Mihei, de goeske gang potre de klegerij.